Nicolas du Verger, du CAUE, je t'invite à nous rejoindre pour cette dernière intervention de la matinée. On a parlé à plusieurs reprises un peu des équipements. C'est vrai qu'on l'a effleuré dans les différentes interventions. C'est aussi un enjeu important pour des collectivités qui se retrouvent pour beaucoup à gérer de nombreux équipements qui sont parfois, pour certaines, des passoires énergétiques. C'est un sujet d'actualité avec des pressions importantes aussi sur les budgets. Et puis un enjeu aussi fort sur les questions de mobilité. Cyril en parlait un petit peu. Je vais te laisser parler tout ça. Ouais.
C'est celui-là ? Non, j'en ai un déjà. Bonjour. Alors voilà, la question posée, c'est penser autrement les projets d'équipement. Bon, c'est un parcours assez rapide hein, qu'on va faire ensemble avec quelques points de vigilance, quelques alertes. Il y a une grande partie du constat qui a été fait, mais je reviendrai quand même un peu dessus pour parler du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors ouais, tiens, le petit stylet, c'est super. Comment ça marche ? Dans quel sens ? On s'en fiche ? Bon, on entend tout, c'est ça. Alors, je vais vous dire qui je suis déjà, pour que vous sachiez d'où je parle. Ensuite, un petit parcours dans le monde d'aujourd'hui. Un parcours libre au travers d'une présentation d'une dizaine d'équipements ou de lieux de culture. Alors moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire la culture. Quand on m'a posé la question, je me suis beaucoup creusé. Et je me suis souvenu quand même que le CAUE est un élément, un acteur de la culture, puisque l'architecture est une expression de la culture. C'est ce que dit la loi de 77, la loi qui porte création des CAUE. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est une époque où on s'habillait de cette manière-là, mais on construisait aussi tous azimuts. Il y avait une vision progressiste du monde qui animait les élus, les habitants, et surtout des politiques publiques qui relayaient l'idée que chacun d'entre nous allait devoir acheter sa propre maison et donc consumer un bout de terrain. Et que ce faisant, la question de l'urbanisation, la question de l'harmonie et du vivre ensemble, la question de la société allait être posée puissamment. Peut-être plus puissamment que pour les anciens modèles, et qu'il fallait mettre en place un accompagnement, une aide aux porteurs de projets, aussi bien les particuliers que les collectivités, pour essayer de que le monde soit un petit peu moins moche, quoi. Donc on est à la fin des Trente Glorieuses, 77, parcimonie pétrolière qui commence à se faire jour. Bon, on l'a oublié, enfin voilà, c'est un espèce de yo-yo, la question de l'énergie, c'est ça qui est assez déroutant. On a tartiné, aménagé, tous azimuts, et naissent les CAUE de cette idée que l'architecture est une expression de la culture, la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public. Donc c'est la question de l'intérêt public, finalement c'est la question sociétale, d'une façon générale. Et donc ça porte création des CAUE. Alors, ah, ouais, ça c'est pour pointer, ça doit être pour... Ok, oh là là, je suis vraiment has-been. Voilà, le CAUE du Finistère, c'est une création récente, puisque je suis arrivé en 2014 pour le créer. Et donc on porte quatre actions fondatrices et insécables, qui sont le conseil, la formation, la sensibilisation et l'information. Et donc... chaque année, on accompagne environ 80 et 100 collectivités, 5 communes. Alors 150 l'année dernière, il y a eu une espèce de pic là. Surtout le département, puisque notre périmètre d'intervention, c'est le département. Sur différents projets d'aménagement, d'équipement, de rénovation et de fleurissement. Bon, voilà, on est attaché notamment à la fabrique du commun par les habitants, donc l'implication des habitants dans leur cadre de vie. On intervient en étude de préfiguration auprès des communes. Là, c'est Plouigneau, par exemple, qui se posait la question de son écomusée. Comment concevoir, imaginer un écomusée en complément déjà de la collection existante, et comment valoriser cette collection. Donc, on travaille comme le font les architectes, hein, puisqu'on est architecte et paysagiste concepteur, sur la base de plans et d'outils de représentation qui permettent aux élus d'avoir une vision un peu plus claire du projet à réaliser. Avec quand même, du côté du CAUE, l'idée que la décision relève du décideur et donc de la puissance publique. On n'est pas là à dire à l'élu ce qu'il faudrait faire ou pas faire. On est là pour l'aiguiller. On est un peu l'enclume du forgeron. C'est-à-dire que pour forger une pièce, il faut déjà une enclume. Sans enclume, on ne peut pas forger. Donc on constitue en fait la panoplie d'acculturation, enfin qui va permettre d'acculturer l'élu, qui va lui permettre de comprendre quels sont les enjeux relatifs au projet, quelle est l'économie du projet, comment ça se monte un projet, la démarche, etc. Et puis on pose la question architecturale au cœur du projet, parce que aménager, construire, c'est une chose, mais faire de l'architecture, c'est autre chose. Il y a une dimension supplémentaire, hein, qui est d'ordre culturel. Donc voilà, les projets qui nous intéressent, et ça peut être effectivement des projets de ce type-là ciblés directement sur la question de la culture, hein, des écomusées par exemple, des salles de spectacle, mais plus généralement c'est la question de l'habitat qui nous occupe. Et puis chaque année, on accompagne entre 400 et 500 particuliers au travers de 8 lieux de permanence répartis sur l'ensemble du département. Donc on a choisi des services instructeurs pour essayer d'accompagner chacun des particuliers. C'est de la médecine de guerre, en fait. Hein. Vous avez un projet d'extension, vous avez un projet de rénovation de votre maison, vous pouvez consulter gratuitement le CAE. Alors, gratuitement, pourquoi ? Il faut, en deux mots, que je vous dise le modèle économique. Parce qu'on est une association qui poursuit une mission de service public, mais qui est financée par la taxe d'aménagement. Donc, il y a une fiscalité qui nous revient, une petite partie de cette fiscalité de la taxe d'aménagement, qui elle-même sert à deux objets, les espaces naturels et sensibles, propriété du département, les 4500 hectares, Mont d'Arrée, Ménéum, etc., ou espaces littoraux emblématiques finistériens. Et puis, une petite partie, 625 000, permet de financer l'action du CAE du Finistère, et donc cette action de conseil, de sensibilisation, de formation et d'information. Alors, ça, ce n'est pas des gens qu'on a conseillé, malheureusement, mais ça fait partie des lieux qu'on rencontre dans nos pérégrinations au Finistère. Quoi. Et voilà, et ça se traduit à chaque fois par une petite ordonnance de ce type-là, qui permet aux particuliers ou à la collectivité d'en savoir un peu plus sur les enjeux de son projet, de savoir dans quelle direction lancer cette opération. Alors, quelques éléments de contexte. Je crois que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je serai un peu rapide. Mais les éléments de contexte, voilà. Architecture, culture, c'est quand même essentiel de savoir dans le monde, enfin, d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit, quoi. Quand on dit que l'architecture est une expression de la culture, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être une notion un peu nébuleuse. Mais pour moi, je l'entends de cette manière-là, quoi. C'est-à-dire que l'architecture, finalement, est le reflet de la société dans laquelle on vit. Et je trouve que cette photo, elle relate bien le monde dans lequel on vit, enfin, l'espèce de schizophrénie, l'espèce de débauche d'espace, de matérialité, et finalement ce monde fini que tu évoquais tout à l'heure, hein, qui est très bien décrit tout à l'heure, qui fait coexister des grandes enseignes ou des infrastructures industrielles, un peu d'habitat, et tout ça sur des sols de plus en plus stérilisés, artificialisés. Bon, voilà. Il faut en être conscient. J'ai l'impression que certains oublient de regarder quand même ce paysage ordinaire, hein, qui grignote du terrain chaque jour. Et pour autant, on a su faire différemment à d'autres époques. Hein. Là, on est dans une économie certes de subsistance. Hein. On est au Plomard, à Douarnenez. On a su organiser l'habitat. On a su construire avec des matériaux prélevés localement qu'on a prélevé avec un peu d'intelligence, dans un souci d'économie, en essayant de limiter la pénibilité, puis surtout en essayant de travailler la question du climat et de mettre cette question du climat au cœur de la distribution de ces espaces. Alors, effectivement, c'est perfectible. On a besoin de plus de lumière, on a besoin d'un confort thermique supplémentaire. On vit aussi effectivement d'une manière différente, mais c'est... Ces formes d'habitat traditionnels sont particulièrement inspirantes aujourd'hui où se pose cette question de la ressource, hein, la finitude du monde, du réchauffement climatique. Elles sont bioclimatiques par définition, ces constructions, puisqu'elles composent avec le climat, soit en défense, soit pour essayer de tirer profit des apports solaires de façon passive. Elles sont par définition compactes parce que c'est un projet de société et de mutualisation. Donc c'est des formes très inspirantes et on s'appuie régulièrement, plutôt que d'aller convoquer des modèles prestigieux venus des quatre coins du monde, on s'appuie généralement sur cette architecture vernaculaire pour essayer d'inventer finalement notre avenir proche. Alors on vit aussi dans ce monde-là quand même, c'est le monde de la règle, de la norme, qui a organisé le territoire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Vous voyez, là on est dans une commune bretonne, alors pas finistérienne, mais c'est, voilà, ça c'est un PLU, hein, c'est un plan de zonage d'un PLU. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit donc une zone centrale en rouge là, voilà, ça c'est le cœur historique du bourg, enfin ou de la petite ville. Et puis on a découpé comme un gâteau des espaces en les spécialisant. Donc on a des zones de loisirs, on a des zones d'activité, donc en gris on a les zones d'activité, vous voyez, tac tac, en périphérie. Les zones de loisirs, elles sont en bleu. On a des zones naturelles qui sont de plus en plus réduites voilà, et morcelées, et NA. Voilà. Et puis on a des zones en périphérie centrale et des zones d'équipement un peu plus loin. Donc on a zoné le territoire et ça occasionne nécessairement des déplacements pendulaires pour aller consommer, pour aller consommer aussi du loisir, parce que c'est une forme de consommation aussi, de la culture, pour aller travailler. Et donc on a multiplié les déplacements par ce type d'organisation issue de la loi d'orientation foncière, hein, des POS, puis ensuite des PLUI, etc. Et on a cru à un moment avec la loi SRU, solidarité et renouvellement urbain, hein, avec cette idée maîtresse de refaire la ville sur elle-même, de densifier, d'intensifier la ville, que les choses allaient changer. On n'a jamais autant artificialisé que depuis la loi de 2000. Bon. Donc, un certain scepticisme, vous entendez un certain scepticisme de ma part quant à la loi et au grand rapport. Alors, la planète trop petite, tu l'as très bien dit, effectivement, suivant l'estimation de l'empreinte écologique, près d'une planète et demie serait nécessaire désormais pour subvenir à l'ensemble des besoins de la population, 8 milliards d'habitants en 2022. Quoi. Donc, voilà, bon, c'est parlant. Cette petite boule est trop petite pour nous. Extinction de masse, la dernière qui a eu lieu, c'était à 65 millions d'années, c'était les dinosaures. Donc là, voilà, on se dirige vers une nouvelle extinction de masse. L'alouette des champs, c'est moins 20% en 15 ans. La Terre aurait vu disparaître près de 68% de ses populations de vertébrés entre 70 et 2016. Donc la vie quitte la Terre, hein. Voilà, on peut le dire aussi d'une autre manière. 18% des espèces ont disparu, 78% des habitats sont dans un état de conservation défavorable, 35% des milieux humides ont disparu depuis 70 dans le monde, 18% des oiseaux communs spécialistes ont disparu de métropole entre 89 et 2021. Donc, faire l'expérience de la nature, c'est de plus en plus rare. On l'a fait maintenant donc, à travers des bouquins ou summum avec des balades virtuelles et grâce à des lunettes. Alors, les grandes causes, c'est ce que je montrais tout à l'heure. C'est notamment la destruction et la fragmentation des milieux naturels hein, par ce mode de consommation de l'espace. C'est la surexploitation des espèces sauvages. C'est les pollutions de l'eau, de l'air, du sol. C'est l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Aussi bien végétal qu'animal. Hein. Et puis, c'est bien sûr le changement climatique. Là, on n'est pas loin de Brest. Hein. On voit le morcellement et le mode de consommation de l'espace qui est éloquent. La question de l'artificialisation est au cœur aussi de la perte de biodiversité. Hein. Vous avez là la consommation d'espace entre 2009 et 2021. Avec comme source le portail de l'artificialisation des sols. Donc on voit que le littoral français est particulièrement touché par cette question de l'artificialisation. Et donc entre 1981 et aujourd'hui, les terres artificialisées sont passées de 3 millions d'hectares à 5,1 millions, ce qui représente une croissance de 70% contre 19% sur l'augmentation de la population. Quoi. Vous voyez, donc il y a une inadéquation en fait, entre la consommation de foncier et la croissance de la population. On consomme de plus en plus. Bon, il y a plein de facteurs qui expliquent ça, mais bon, voilà. Alors, est-ce qu'il faut, dans ce monde-là, continuer de construire ? C'est une grande question, sachant notamment que le secteur de la construction contribue à 23% de la population atmosphérique, 40% de la population de l'eau potable et 50% des déchets mis en décharge. Et on peut se demander s'il faut continuer de construire en béton. Hein, vous savez que le béton, c'est un non-sens économique et écologique. Et économique, parce que pour faire du béton, il faut de la chaux qu'on brûle à 1200, enfin, et écologique, hein, qu'on brûle à 1000 degrés. Mais ça ne suffit pas, la chaux. Il faut rajouter du sable, donc il faut prélever du sable. Il faut aussi des graviers, donc on prélève des graviers. Et puis il faut de l'acier, parce que le béton, c'est une matière veule qui ne se tient pas. Donc il faut le ferrailler, le béton, si on veut qu'il tienne. Donc, vous voyez, donc c'est une ressource supplémentaire. Et puis, comme il ne se tient pas, il faut le coffrer. Donc on construit une maison en bois dans laquelle on va couler le béton. Et puis, une fois qu'il est sec, le béton, enfin qu'il a pris, on enlève la maison en bois et on la jette. Donc c'est comme ça qu'on construit aujourd'hui. Et personne ne réinterroge le modèle. On a l'impression qu'on peut continuer comme ça pour des siècles. Alors, un petit parcours libre au travers de certains lieux de culture que moi, j'ai repérés par leur intelligence du projet ou parce qu'ils sont un peu décalés. Alors, on aurait pu appeler ça le Shift Project, mais je trouve que c'est moche, les anglicismes. Là. Et donc, là, voilà, c'est le pas de côté. On a Dunkerque, un projet de FRAC, donc comment loger tout le fond d'art contemporain de la région Nord dans cet ancien hangar naval. Enfin, c'est un chantier naval. C'est d'ailleurs le dernier témoignage d'un chantier naval très prestigieux sur Dunkerque, construit en 1949. Et le programme donc prévu par la collectivité, le FRAC, imaginait d'installer à l'intérieur de ce bâtiment-là la totalité des équipements. Donc c'est sur cette base-là qu'un concours a été lancé auprès d'architectes. Et les architectes retenus, lauréats, ont fait le pas de côté. Ils se sont dit, mais non, le hangar, c'est un espace capable qui a un intérêt patrimonial et qui pourrait d'ailleurs lui-même en recevoir des manifestations d'ampleur à condition de quasiment pas y toucher. Par contre, on vous propose, avec la même économie, de construire à côté un volume identique avec une nouvelle matérialité qui va permettre non seulement de conforter la vie du hangar, de le valoriser, ce hangar, mais d'avoir un équipement beaucoup plus performant. Et donc c'est ce projet qui a été proposé par Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, qui sont des architectes bordelais, qui sont maintenant très très repérés dans tout le monde. Ils ont eu le prix Sker, notamment, qui est l'équivalent du Nobel d'architecture. Mais sur un travail de l'économie du projet, de l'intelligence, du pas de côté, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, en tant qu'architecte, de répondre strictement à la commande. On a une nécessité qui est de proposer quelque chose d'excédentaire, voilà, de réfléchir un peu mieux, un peu plus loin que le programme. Alors, dans les années 60, il y avait plein d'utopies. Peut-être qu'on a renoncé à ces utopies, peut-être qu'il faudrait, dans cette question du récit aussi, proposer des visions un peu poétiques. Alors là, elles sont un peu extrêmes, mais c'est Guy Rottier, qui est un architecte particulièrement utopique, je vous invite à voir sur le FRAC d'Orléans, qui est spécialiste de l'architecture, la collection des travaux de Guy Rottier. Et lui, il prévoyait pour les festivals des superstructures en câble, comme ça, dans lesquelles on viendrait installer des constructions en carton, alvéolaires, autoportées, avec l'idée qu'à la fin du festival, on ne laisse plus aucune trace, on brûle tout. Alors, point de vue carbone, c'est pas terrible, hein, je vous le concède. Mais voilà, c'était l'idée de restituer un paysage sans gréver son sol à la fin du concert. Bon, c'est une façon de gérer les déchets comme une autre. C'est un peu d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, on incinère finalement les déchets. Alors, ce que je veux dire par cette image, c'est qu'un grand nombre de lieux de culture, vous le savez, sont issus de pratiques alternatives de l'espace urbain ou de l'architecture. Et un grand nombre de projets sont issus des squats. Vous connaissez peut-être le blocos DY10 à Nantes, qui appartenait à l'évêché. Et qui était donc plein cœur de l'île de Nantes avant même que. On était à une période d'ailleurs de transition, c'est-à-dire que les chantiers de l'Atlantique venaient de fermer, les chantiers du Bigeon, là, qui étaient juste à côté. Et puis un certain nombre d'industries un peu moribondes, là, commençaient à sentir le vent du goulet. Et donc, on était sur une situation urbaine en hypercentre, mais un peu délaissée. Et un collectif d'architectes. A repéré ce blocos, qui était le blocos attaché au chantier de l'Atlantique, qui permettait, pendant la Seconde Guerre mondiale, aux ouvriers de se réfugier. Et donc, ils ont vu, ces étudiants de l'école d'archi, moi j'y étais, une possibilité d'investir un espace de manière sauvage, de manière un peu transitoire, un peu temporaire, pour faire des concerts, pour faire des expérimentations diverses, etc., dans ce lieu avec une coque surdimensionnée. Et puis par par la force des choses, en allant convaincre l'évêché de céder sous forme de bail amphithéotique, et puis en montant une association, etc., ce lieu est devenu finalement un espace culturel repéré à Nantes et quasiment institutionnalisé, quoi. Donc s'y tiennent régulièrement des concerts, des expositions d'art contemporain, etc. Donc on est juste en face des machines de Lille et de l'ancienne nef des chantiers du Bigeon. Je trouve que c'est très inspirant, et je ferai un écho tout à l'heure, dans la manière d'appréhender l'avenir des lieux. La question du squat, c'est très inspirant. Alors, là, on est sur une autre démarche, en fait. C'est Bellastock, c'est un collectif d'école d'architecture parisienne qui, pendant quelques années, imaginait des festivals avec comme... destination d'expérimenter des modes de faire un peu nouveaux. Donc il y a une année, c'était la ville éphémère, la ville du souffle. Voilà. Et cette année-là, c'était Playmobil, une ville mobile, et donc qui devait pérégriner, transhumer de l'est de l'ouest de Roissy jusqu'à l'est de Roissy. Avec des structures imaginées pour être démontables, remontables, enfin pour être nomades. Et ça pose la question de l'intendance. Comment on conçoit des toilettes adaptées à cette mobilité? Comment on conçoit des structures scéniques? Comment on conçoit des lieux d'accueil pour les artistes, pour les spectateurs réellement mobiles? Et par cette transhumance, ils ont pu éprouver physiquement et faire progresser un certain nombre d'architecture. Vous connaissez tous la Manu à Morlaix, j'imagine, qui est aussi un lieu très inspirant pour différentes raisons, à la fois parce qu'on s'inscrit dans l'histoire d'un lieu emblématique, une ancienne manufacture de tabac, on en prolonge l'existence, et puis que c'est un attelage un peu atypique, en fait, d'associations, un cinéma... un programmateur de musique actuelle, une troupe de théâtre. Donc l'Alliance des Trois, sous l'intitulé de Sioux, a permis l'installation d'un équipement culturel très, très polyvalent. Donc deux salles de cinéma, une grande salle de spectacle, etc., au sein même de la Manu, sans trop transformer l'espace. C'est-à-dire que c'est la logique de la boîte dans la boîte. On est venu installer comme ça, sans trop gréver la structure existante du bâtiment, qui était aussi sous le coup de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Et donc ça donne ce résultat que vous connaissez, qui est remarquable. Et donc c'est Loïc Julienne, l'architecte de l'opération, un collègue de Patrick Bouchain. Bon, la culture, c'est bien sûr un lieu de résistance. Et là, on est à Vitrolles et en travaillant avec les habitants, à la fabrique de mobilier, à réappropriation de l'espace public, on contribue aussi à regagner, à refaçonner la ville, finalement, et à chasser peut-être les extrêmes de ces villes. Voilà. Bon, c'est aussi un vecteur de politique urbaine. Vous connaissez le voyage à Nantes. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. Ou un projet de territoire plus largement. Alors, ça convoque aussi la question des mobilités, parce que pour aller d'un lieu à un autre, idéalement, il faudrait prendre son biclou, quoi. Et c'est vrai que c'est aussi une forme de consommation d'espace là sur Nantes. Alors, c'est aussi une mise en récit aussi de cette main coulante finalement qu'est la Loire entre Saint-Nazaire et Nantes. C'est une nouvelle façon de voir le territoire. Cette petite histoire est aussi intéressante. On est à Piacé-le-Radieux en Sarthe, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un tout petit village. Ça fait écho à la question de la revitalisation des centres-bourgs. On a beaucoup parlé ces 10 dernières années, on a invité les élus à repenser leurs centres-bourgs, à revitaliser, redynamiser, comme si finalement il ne se passait rien dans ces espaces ruraux, et comme s'il fallait absolument investir beaucoup d'argent, repenser les choses, amener davantage d'habitants, enfin toujours dans ces logiques de développement. Et à Piacé, un ancien étudiant de l'école Boulle à Paris s'est souvenu que Le Corbusier avait conçu un projet de village radieux. Il avait été approché par Norbert Bézard, un paysan syndicaliste des années 30, qui, lassé des conditions un peu minables d'existence de ses congénères, avait été frappé à la porte du grand architecte en lui demandant d'imaginer un nouveau village salubre et avec des unités de production, et puis surtout de s'extraire un peu de la fange dans laquelle se situaient tous les paysans à cette époque-là dans le nord de la Sarthe. Et donc Le Corbusier, contre toute attente, avait répondu favorablement et avait imaginé une cité radieuse. Voilà. Avant même les cités radieuses qu'on connaît à Firminy, Marseille ou à Rezé. Hein. Mais le problème, c'est que ce projet est resté dans les cartons. Alors Le Corbusier, comme il était assez opportuniste à l'arrivée de Vichy, du maréchal Pétain, est allé frapper à sa porte en lui vendant ses services, en lui disant voilà, j'ai là un projet formidable de village qu'on pourrait essaimer sur l'ensemble du territoire français. Voilà, ça permet pas. Bon, maréchal Pétain a dit non. Ensuite, il est allé voir Mussolini, qui a dit non. Voilà. Et donc, le projet est resté dans les cartons. Et cet étudiant de l'école Boulle s'est souvenu de ce projet-là, qui est intéressant. et sur la base de cette mémoire, a imaginé tout un parcours d'interprétation disséminé sur le village et qui a contribué finalement à redonner un avenir à ce bourg qui était moribond, quoi. Donc la culture, ça peut être aussi un vecteur extrêmement puissant de redynamisation et d'implication des habitants dans un projet commun. Alors là, on est à Pouillé, une ancienne école des filles. Vous voyez la situation aujourd'hui. Et donc le maire m'appelle il y a 2 ans en me disant, ben voilà, on veut construire une halle, une espèce de lieu pour que les jeunes puissent s'exprimer, pour que la fête de la musique puisse s'y tenir, pour qu'on puisse jouer au boule, etc. Donc un lieu extrêmement polyvalent. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. On se balade dans le bourg. Et il m'indique ce bâtiment-là en me disant, voilà, on va détruire ce bâtiment-là et on va construire à la place une halle. Et donc on a su le convaincre de la nécessité de conserver ce bâtiment-là, parce que là, on a la halle, finalement. Et donc on a organisé un petit concours d'architectes. Alors elle est un peu moche, cette image, mais en réalité, ça sera mieux. Hein. Le projet est plus sympa. L'idée, c'est de conserver la coque du bâtiment, de l'évider et de faire... cette halle à l'intérieur, ce qui fait qu'on dispose d'un espace capable de mutation infinie. Dans un court terme, ça sera une halle, mais si on voit que une activité prend l'ascendant sur d'autres et qu'il faut un peu spécialiser l'équipement, on pourra procéder par petites touches à des modifications à l'intérieur de cette grande coque. En conclusion... de ce petit parcours. Dans ma pratique quotidienne, moi, ce que j'observe, c'est quand même un besoin de définir les usages en associant la population. Trop souvent, les équipements publics se font en loge. Donc, on confie à un programmiste, à un AMO ou à un conducteur d'opération le soin de décider de ce qui sera bien pour la tenue des spectacles et pour les spectateurs eux-mêmes ou les habitants. Je pense qu'il ne faut plus faire de cette manière-là. Il faut vraiment associer la population, les élus, aussi les artistes, à la définition des équipements. Ça, c'est essentiel. On ne peut plus construire comme on le faisait. Pour deux raisons, c'est qu'on ne trouvera plus de foncier disponible. Et puis, la première, c'est que quand même... on a un bâti existant qui est extrêmement abondant, qui est désaffecté, en déshérence, et donc il faut aujourd'hui partir à la reconquête de ce bâti. Donc c'est investir les bâtis anciens, investir les friches, et faire avec le déjà-là. Troisième point, je pense, essentiel dans la question des équipements publics, il faut déspécialiser les équipements. Alors ça ne marche pas pour tout type d'équipement, mais il faut notamment favoriser les hybridations des programmes. Et faire que les lieux vivent intensément toute la journée, voire toute la nuit, quoi, tout le temps. Le 104, le lieu unique, c'est des exemples en fait de lieux déspécialisés qui combinent un peu d'activité culturelle, un peu d'économie, c'est l'économie aussi, l'activité culturelle, on l'a vu, mais qui combinent différentes fonctions, différents usages dans une vie beaucoup plus intense. Dans la notion de programmation, si je reviens dans la définition des besoins, on peut aussi opter, s'agissant de bâtis anciens, par la vérification des hypothèses sous forme d'aménagement transitoire. C'est-à-dire qu'avant de partir à la reconquête d'un bâtiment, on peut tester des choses à l'intérieur de ce bâtiment. Il n'est pas chauffé, mais ce n'est pas grave. S'il est hors d'eau, hors d'air, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer un petit spectacle, on peut imaginer une fiesta, on peut imaginer un banquet, on peut imaginer de l'ouvrir à la population de temps en temps pour qu'ils puissent comprendre aussi ce qui s'y passe, etc. Donc, la programmation, elle peut se faire un peu différemment. Donc, sortir du travail en loge, travailler davantage sur le terrain, en impliquant davantage les habitants et en testant différentes hypothèses. Et finalement en concrétisant le projet avant même qu'il soit concrétisé matériellement, quoi. Et puis une chose essentielle à mon avis, c'est d'expliquer le projet régulièrement à toutes les étapes, depuis l'amont jusqu'à l'aval, quoi. Aujourd'hui on segmente le temps de fabrication d'un projet, donc il y a l'aval, c'est tout ce qui relève de la programmation, la définition des usages, de l'économie du projet, du choix de l'architecte. Ensuite, il y a l'architecte qui va travailler, mais c'est pareil, c'est pas visible, sauf une réunion publique. Généralement, il travaille chez lui et puis il revient une fois ou deux dans la commune présenter les esquisses, les variantes, etc. Mais c'est souvent devant le conseil municipal et la population est tenue à l'écart des choix. Donc c'est important de l'expliquer. Et puis troisième étape, le chantier, souvent il est barricadé derrière des grandes grilles métalliques ou des grandes façades, bah c'est l'ouvrir ce chantier, parce que ça attise la curiosité, parce que si on veut intéresser aussi les habitants à la fabrique du paysage et à la fabrique et à l'architecture d'une manière générale, et donc qu'ils soient partie prenante du projet, et bah il faut aussi qu'ils comprennent quels sont les choix de matérialité, comment on a construit l'édifice et pourquoi on a fait ces choix-là aussi. Donc voilà en gros les principales pistes que je voulais vous proposer sur la question des équipements publics. C'est une sorte de révolution quand même dans nos pratiques ordinaires. Vous l'avez compris, souvent, la question de la construction, elle est confisquée par quelques sachants, des sociétés d'économie mixte, des programmistes, des architectes, voilà, des bureaux d'études, etc. L'idée, c'est d'ouvrir davantage le process. Aux décideurs, donc aux élus, qui ne soient pas à côté du projet, mais qui soient vraiment partie prenante du projet, de la définition des espaces et partie prenante des choix, et surtout à la population et aux usagers de ces espaces, qui soient vraiment au cœur du projet. Voilà ce que je souhaitais vous dire.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions ? Vous avez déjà trop faim, peut-être ? Question.
Merci. Merci pour cette présentation. Je me questionne, il y a un sujet que je ne vois pas apparaître dans tes propositions, c'est tout ce qui va relever de la renaturation, la régénération. Voilà comment on rend aussi de l'espace à des espaces naturels, des espaces urbanisés. Est-ce que ça fait partie aussi de pistes ? Est-ce que c'est en complément ? Est-ce que tu le vois à un endroit particulier ? Enfin, voilà.
La question de la renaturation. J'avais un diaporama qui était trop long, en fait. Et j'ai extrait de ce diaporama pour essayer de me concentrer sur le process de fabrication des équipements. Mais bien sûr, aujourd'hui, comme vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, mais on se dirige vers le ZAN, zéro artificialisation nette. Donc l'idée, c'est d'éviter l'artificialisation et de compenser. Donc il y a trois séquences, c'est éviter, réduire, compenser. Et donc compenser en renaturant des espaces. Quand on artificialise quelque part, on doit rendre autant d'espace en renaturation. Alors, c'est intéressant. Le problème, c'est que ça introduit une notion purement comptable, en fait. Et il ne faudrait pas que cette notion du ZAN, donc de l'artificialisation du sol, soit uniquement un système de compensation en superficie. Nous, ça nous interroge sur la question de la pédologie, donc de la vie du sol. Ça nous interroge sur la question de la topographie, parce qu'en fonction de la pente du sol, on ne peut pas y faire on peut pas construire à chaque fois. Ça interroge sur la question du climat, de l'orientation solaire du sol. Et ça interroge aussi sur la question de la foncière, donc de la maîtrise foncière de ce sol. Et donc, ça sera probablement une révolution dans la manière d'aborder l'urbanisation si effectivement, les décideurs publics prennent en compte ces différents paramètres dans la question du sol, pas uniquement ce qu'on a vu, c'est-à-dire dans la carte d'un PLU en surface. Alors, par ailleurs, la question du ZAN re-questionne le rapport homme-nature et invite peut-être à repenser ou en tout cas à corriger le tir. Voilà. Alors, généralement, j'ai quelques diapos qui montrent comment l'homme s'est extrait de la question de la nature et est devenu finalement Dieu. D'ailleurs, la représentation de la Terre par satellite, finalement, c'est sans doute l'image que doit avoir Dieu, si on y croit, mais de la Terre. Donc on n'est plus les pieds sur Terre. Et donc le ZAN réinterroge cette question profondément du rapport entre homme et nature et nous invite à penser des équipements qui soient aussi des capteurs de biodiversité. Donc c'est aussi d'amener de la porosité dans les murs, c'est de travailler effectivement les aires de stationnement d'une nouvelle manière, les limiter probablement, travailler sur l'infiltration de l'eau, c'est végétaliser un maximum de, d'éléments construits. Enfin, ouais. Mais on est un peu dans la technique après, quoi.
Merci.
Oui, merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi, je voulais rebondir sur la question du patrimoine bâti, et notamment du patrimoine bâti qui est protégé, qui est conservé et qui voilà, fait souvent face à des difficultés qui sont des vraies passoires énergétiques, etc. Comment est-ce que le CAUE travaille sur ces questions-là ? Est-ce qu'il travaille sur ces questions-là ou pas ? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas forcément de porosité. On a tendance à penser que le CAUE est plutôt tourné autour de l'architecture contemporaine et peut-être moins finalement du patrimoine bâti. Comment est-ce que ça fonctionne en termes de conseils, d'accompagnement sur des bâtiments plutôt protégés ? Et juste pour ajouter aussi, ces lieux de patrimoine qu'on protège aussi et qu'on ne va pas forcément, redonner de nouveaux usages à certains lieux de patrimoine bâti. Et ça permet aussi d'ouvrir, comme vous le disiez, je pense sur notre territoire, dans le Haut-Pays Bigoudin, il y a des sites qui sont inhabités, qui n'ont plus d'usage, mais qui sont en fait habités par notamment des chauves-souris, etc., qui sont protégés. Donc on retrouve aussi la vie, finalement, même dans des bâtiments où il n'y a plus de vie humaine en soi. Mais voilà, ma question principale, elle s'intéressait au lien entre CAUE et patrimoine bâti protégé, notamment.
Alors, protégé ou pas protégé, parce qu'en fait, nous, on considère que déjà là, c'est déjà finalement un héritage et c'est quelque part un élément de patrimoine. L'idée, c'est de comprendre comment l'édifice a été construit, quelle est sa matérialité. C'est de valoriser aussi cette matérialité en savoir-faire. Des murs en pierre épais, c'est un savoir-faire particulier qu'on a souvent perdu. Et puis, c'est une inertie thermique avec laquelle il va falloir jouer. C'est des murs qui sont perspirants, donc qui ont un système, en fait, et un fonctionnement qui leur sont propres. Et donc, plutôt que d'essayer de caler des solutions contemporaines, rupture, isolation, étanchéité à ces bâtiments, il faut essayer de les comprendre pour amener des fonctionnements qui soient complètement adaptés. Et donc, des logiques de boîte dans la boîte, par exemple, travailler à l'intérieur des boîtes complètement étanches et garder en second pot, finalement, la structure de l'édifice patrimonial ou ancien. C'est un peu ce que proposent d'ailleurs Lacaton et Vassal à Dunkerque. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de donner un confort thermique complètement optimisé, performant à cette grande halle en béton, ils ont travaillé sur une peau étanche, performante thermiquement, etc. Et ils ont laissé de côté l'autre bâtiment qui a une occupation plus saisonnière, plus transitoire, etc. Pour une économie de projet d'ailleurs qui est similaire à ce qui était prévu initialement. Alors, nous, on n'a pas envie d'opposer patrimoine, enfin bâti ancien et création architecturale, considérant déjà que 95%, je pense, du bâtiment en place est suffisant pour, 10, 20, 30, 40 années. Enfin, je n'ai pas les statistiques en place, mais on n'a plus besoin de construire, en gros. Donc, l'enjeu du moment, pour quelques dizaines, peut-être centaines d'années, c'est de partir à la reconquête du bâti ancien. Mais encore une fois, en évitant de lui faire subir les ravages de solutions qui ne seraient pas adaptées, quoi, de solutions adaptées pour du neuf, ça ne va pas pour de l'ancien, quoi. Alors après, il y a effectivement un dialogue à opérer, probablement avec les gestionnaires du patrimoine, alors classés, inscrits, etc., pour que ces derniers aussi puissent évoluer dans leur pratique. On est à une espèce de carrefour idéologique aussi sur cette question du patrimoine. On voit bien qu'on est dans une société ultra conservatrice. Ça n'a pas toujours été le cas. Viollet-le-Duc, quand il rectifiait Notre-Dame de Paris, ou qui proposait même de rectifier le Mont-Blanc parce que c'était pas assez joli, la petite crête du Mont-Blanc, pouvait tout se permettre. Donc entre cet excès-là et notre conservatisme excessif d'aujourd'hui, il y a certainement une voie un peu intermédiaire qui permettrait d'ailleurs de tirer profit de ce capital existant. Et donc dans la voie de la sagesse, de la sobriété énergétique, de la frugalité, comme dit Philippe Madec. Et de répondre complètement aux enjeux aussi de patrimoine, c'est-à-dire de valorisation des savoir-faire ou des architectures anciennes. Il y a, je pense, une voie à tracer un peu nouvelle, mais qui doit se faire dans le dialogue. C'est la question de la place de l'architecte des bâtiments de France et des différentes commissions. Et il faut accepter le dialogue, quoi. On joue ce rôle de médiation, voilà, pour vous rassurer quand même. On est très, très à la manœuvre sur cette question-là.
Nicolas, j'ai peut-être une question. Tu parles beaucoup de l'implication des habitants aussi dans tout ce travail de réflexion, notamment pour définir aussi les besoins, les usages. Est-ce que vous apportez aussi des modalités d'accompagnement sur ces aspects-là auprès des collectivités ?
Oui, on a même théorisé un concept qui s'appelle PAF, Permanence Architecturale en Finistère, pour essayer de modéliser un process de programmation dite active. Donc comment, en résidant sur place, donc un lieu en voie d'abandon, des élus qui se posent la question, qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment-là ? On fait résider les architectes 6 mois, 3 fois 2 semaines, pendant 6 mois. Et ces architectes reçoivent les habitants régulièrement, organisent des festivités, organisent des concerts, organisent un repas, organisent un certain nombre de choses, fabriquent aussi des éléments de mobilier ou des petits éléments qui vont réparer l'édifice pour tester différentes options de reconquête de ce bâtiment. Et ensuite définir un programme qui va lui donner lieu au choix d'un architecte maître d'œuvre qui va concrétiser le projet. On a donc, c'est la seconde édition de ces PAF. L'année dernière, on s'est attaqué à la salle du Kellen, un ancien gymnase déconstruit dans les années 70 à Carantec, qui était premier à la démolition. Et puis l'élu me fait visiter le truc, il me dit qu'est-ce que vous en pensez. Et je vois donc cette super structure en lamellé collé intacte, une espèce de nef construite dans les années 70, mais en très bon état, quoi. Et donc, je lui dis, non, on ne peut pas démolir aujourd'hui ce type de bâtiment. Vous imaginez, ça coûte une blinde de reconstruire la même chose, quoi. C'est sûr que le bâtiment ne répond pas complètement aux normes contemporaines en termes d'isolation, d'étanchéité, etc. Mais on peut certainement faire autre chose. Et donc, les architectes ont résidé six mois et ont pris le pouls de la population locale, ont essayé de regarder aussi ce qui existait à Carantec, là où il y avait des manques, etc. Et ont imaginé une programmation qui cousue humain. Par cette analyse in situ et l'implication des habitants. Et donc les travaux vont commencer là, très prochainement. On a fait la même chose à Plouezoc, on a fait la même chose à Combrite sur des anciens presbytères, des anciennes écoles du même type que Plouillet. Vous voyez, ces grands bâtiments là, désaffectés du début du siècle. Et puis on travaille en ce moment sur les tanneries, les anciennes fonderies rivières à Quimperlé. Donc en zone inondable, un cortège de bâtiments. Alors ça pose la question, effectivement, est-ce qu'il faut renaturer ou pas en bordure de rivière ? Est-ce qu'il faut dépolluer ? Comment on s'y prend pour dépolluer ? Parce qu'on peut aussi dépolluer en faisant le parti de ne rien exporter. Hein. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Hein. Trop souvent, quand on veut renaturer un site, on extrait le bitume, le béton, tout ce qui est pollué, et on l'exporte très loin, mais on ne sait pas trop dans quelle filière ça part. Et nous, on pense qu'il y a des alternatives, peut-être en stockant les choses, en faisant la part du feu, c'est-à-dire en sanctuarisant des espaces dans lesquels l'homme n'ira pas, en mettant en andin, par exemple, de l'amiante, et puis en barricadant. Et donc les lézards vont venir habiter dans l'amiante, etc. Mais ce n'est pas gênant. Et puis on mettra en place tout un système en périphérie qui permettra d'accueillir l'homme, mais dans des conditions sanitaires rassurante, quoi. Il y a le transformateur à Saint-Nicolas-de-Redon qui a expérimenté ces techniques-là de renaturation sans exportation des déchets. Ça marche super bien. Voilà. Et puis Châteaulin, un quartier de logements sociaux, là où on s'intéresse aussi à l'avenir de ces 180 logements sous une forme de résidence architecturale.
Bonjour, Camille Lelanne pour Concarneau-Cornouaille Agglomération. J'ai une petite question par rapport aux constructions d'équipements culturels, parce que sur notre territoire, on a un certain nombre de médiathèques en projet de construction ou rénovation, dont Concarneau. Je me pose la question des études d'impact environnemental, puisque au gré des discussions qu'on a eues avec les architectes consultés ou retenus, ils n'ont pas ce réflexe-là de se poser systématiquement la question d'étudier l'impact de la construction. Or, il y a eu une évolution législative sur le sujet, parce que les bâtiments culturels sont tous concernés. Maintenant, il n'y a plus question de nombre de personnes qui pourraient fréquenter l'établissement. Donc, je voulais avoir votre retour là-dessus, si vous aviez des informations à nous communiquer.
Le premier impact, c'est le lieu d'importation, quoi. C'est le décideur public, quoi, qui doit s'interroger sur l'opportunité de construire ou de rénover, quoi. Et puis ensuite, effectivement, il y a une obligation légale, et donc les architectes doivent répondre à cette obligation légale. Hein, ça fait partie du diagnostic. Donc, ouais.
Tu veux en En fait, ouais, j'apporte une précision, c'est qu'en fait, moi, ça m'interpelle en fait que spontanément, il propose pas d'évaluer l'impact de la construction sur la flore environnante, sur ce genre de choses, et qu'on soit nous, en tant que service, qui sont pas experts sur le sujet, amenés à les questionner. Je prends l'exemple, par exemple, de l'architecte Bras que vous mettez en exemple, avec qui on travaille également pour Pont-Aven, ou l'atelier 56 pour un projet qu'on a à Melvin. À chaque fois, c'est nous qui les avons sollicités. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de les informer un peu mieux sur ce genre d'obligation?
C'est la manière de conduire le projet. Encore une fois, trop souvent, on a un mode un peu linéaire de gestion du projet et puis une partition des responsabilités. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage attend tout du maître d'œuvre, lequel attend beaucoup de choses aussi du maître d'ouvrage, sans qu'aucun... c'est une espèce de jeu de ping-pong. Et je pense que quand les choses sont évoquées de la manière la plus transparente possible au démarrage, dans une économie quand même confortée, parce que ça coûte de l'argent aussi, toutes ces études complémentaires. Et donc on en demande de plus en plus aux maîtres d'œuvre. Dans les années 70, l'architecte, il était économiste, il était thermicien, il était tout. Mais enfin, il était surtout architecte et il se fichait finalement quelque part du fonctionnement thermique, des fluides, etc. Et aujourd'hui, on a partitionné et on a des bureaux d'études spécialisés qui coûtent de plus en plus cher et des missions qui coûtent de plus en plus cher. Donc ça vaut le coup aussi à un moment de se poser et de quantifier tout ça et de développer l'économie qui va bien pour que l'architecte fasse aussi bien son travail. Là, je mets ma casquette de syndicaliste architecte parce qu'on sous-paye en fait. Et on a un système qui est extrêmement pervers aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis la loi MOP, qui a été une grande maîtrise d'ouvrage public, qui a été une avancée dans le mode de sélection des architectes, puisque ça a été les concours d'architecture, et ça a été l'architecture au cœur du débat, au cœur du choix du maître d'œuvre. Donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, on a indexé finalement le coût de la maîtrise d'œuvre au coût des travaux. D'accord ? Et pour être choisi, souvent les maîtres d'ouvrage prennent les moins 10 ans. Pas les mieux 10 ans, les moins 10 ans. Donc un architecte qui répond à 6% du montant des travaux, je dis toujours au maître d'ouvrage, vous en aurez pour vos 6%. Vous n'en aurez pas pour plus, vous en aurez pour 6%. Voilà. Et pour s'il veut bien se payer, il va fonctionner par avenant. Donc il y aura des avenants successifs jusqu'à la limite de la légalité. Donc voilà, tout ça pour dire que l'économie doit être au cœur du projet et elle doit être discutée le plus tôt possible avec les différentes parties prenantes pour que chacun soit responsable et qu'on évite ce jeu de ping-pong et de responsabilisation. Non, c'est toi qui es responsable, maître d'ouvrage. Non, c'est toi le maître d'œuvre. Tu dois me répondre. Voilà. Il y a les artisans aussi qui rentrent en ligne de compte. Il y a tout un travail aussi d'acculturation de l'artisan dans la fabrication du projet, parce que souvent on les voit comme des exécutants, c'est-à-dire qu'ils vont poser des fenêtres, ils vont poser du placo, etc. Comment faire pour que l'artisan soit vraiment une force de proposition à toutes les étapes du chantier? Mais ça passe par de l'animation, et donc une économie supplémentaire.